Studio Tamani, voici les informations en français.
Il est 18h dans ce studio, même heure à Gao, la cité des Askia, juin 12 juin 2023. Mesdames et messieurs, bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Voici les titres. L'ONU alerte sur la vente illégale des armes au Mali et dans plusieurs autres pays du Sahel. Dans un document, elle s'inquiète des conséquences sur les conflits. On rentre dans la dernière phase de la campagne référendaire pour faciliter la tenue du scrutin à Kidal. La médiation internationale annonce avoir consulté les groupes signateurs de l'accord de paix. La chronique Zoom sur du jour s'intéresse à l'hygiène dans le couple. Son absence peut-elle être source de disputes? La réponse dans ce journal. Le développement avec Adama Amadou Haïdara, Philippe Dambélé est à la mise en onde. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a déploré un commerce illégal des armes dans les pays du Sahel, dont le Mali et en République démocratique du Congo. C'est ce qui ressort d'une étude de l'ONU rendue publique le 10 juin dernier. Le document indique que cette situation a de lourdes conséquences sur les conflits et la lutte contre le terrorisme. Khalifa Guita.
Ce commerce illégal d'armes est dénoncé au Mali dans les régions de Gao, Tombouctou et Menaka. Selon le document, des acheteurs se procurent des fusils d'assaut de type AK à $750, soit environ 450 000 francs CFA. Le document indique que des pistolets fabriqués localement aux mitrailleuses françaises et turques de contrebande garnissent ce marché illégal. Pour lutter contre le fléau, l'Office des Nations Unies contre la drogue et les crimes recommande aux pays du Sahel de redoubler d'efforts. Il s'agit notamment de la collecte des données sur le trafic d'armes à feu et améliorer la compréhension des flux nationaux et transnationaux. Alors que le réseau national d'action contre les proliférations des armes légères au Mali impute cette situation au non-contrôle d'une bonne partie du pays par l'État. Ses responsables déplorent aussi un manque de moyens de la Commission nationale dont la présidence est assurée par le ministère de la Sécurité. Par ailleurs, le réseau dénonce la responsabilité partagée de l'ONU au même titre que le Mali du fait de sa présence dans le pays depuis plusieurs années.
Des spécialistes des questions sécuritaires affirment que les autorités doivent rapidement agir pour maîtriser la situation. Chercheur au Centre d'analyse et de gouvernance au Sahel, Alfoussein Guindo estime qu'il faut sensibiliser les communautés sur les conséquences de cette prolifération des armes. Il est joint par Mamadou Samassiko.
Pour le cas du Mali en la matière, cela peut s'expliquer un peu par l'invasion de la Libye par l'OTAN, ensuite à laquelle les soldats Touareg servant dans l'armée libyenne ont pillé des armes et sont retournés au Mali. Il faut aussi asseoir une bonne politique frontalière entre les pays de la bande sahélo-sahélienne, y compris entre leurs dirigeants et leurs armées, pour pouvoir contrecarrer tout genre de trafic d'armes et d'autres types aussi de trafic qui se font un peu tout au long de ces pays frontaliers. Et aussi sensibiliser les populations, y compris les communautés détentrices d'armes lourdes et légères. Cela doit être vraiment les efforts inlassables de nos autorités gouvernementales pour pouvoir faciliter la récupération de ces armes.
Et réagissez à toutes ces informations sur les réseaux sociaux à travers notre page Facebook ou notre compte Twitter.
Suivez l'actualité du référendum à travers le journal de la campagne référendaire de Studio Tamani.
Informer pour comprendre.
Dialoguer pour s'entendre.
Studio Tamani accompagne
le scrutin référendaire 2023.
Dans un communiqué, la médiation internationale a indiqué avoir mené des consultations avec les parties signataires de l'accord de paix, cela dans l'optique de faciliter la tenue du référendum dans les zones sous contrôle des groupes armés. Pendant ce temps, la CEMAS de l'imam Mahmoud Diko a saisi la Cour suprême pour annuler la tenue du référendum. Le point ici avec Intala Akbilal.
Dans le document, la médiation internationale relève que, sur la base d'expertise, le projet de constitution ne fait pas obstacle à la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation. Elle félicite l'engagement des partis à trouver des solutions pour le retour de la quiétude, surtout dans les zones en proie à l'insécurité. La médiation a par ailleurs demandé dimanche au groupe armé signataire de l'accord de faciliter le déroulement du vote, surtout dans les zones sous leur contrôle. Pendant ce temps, la coordination des mouvements, associations et sympathisants de l'imam Mahmoud Diko a indiqué le dépôt de deux recours auprès du président de la Cour constitutionnelle et du président de la Cour suprême. Il s'agit d'une demande d'annulation des décrets portant création, mission, organisation et fonctionnement de la commission de rédaction de la nouvelle constitution et celle de sa finalisation et le décret portant convocation du collège électoral.
Référendum en région.
À l'intérieur du pays, la campagne référendaire se poursuit dans certaines localités. Cependant, dans des zones en proie à l'insécurité, les électeurs n'arrivent pas à retirer leurs cartes. Le résumé avec Juliette Koulibaly.
Au centre du pays, à Massina, les délégués de la Cour constitutionnelle ont été outillés ce dimanche 11 juin 2023. Ils sont 25 délégués choisis pour observer les opérations de vote pendant le scrutin dans environ 300 bureaux de vote du cercle. À Bankas, c'est une troupe théâtrale qui a sillonné les communes de Dimbal, Kani et Bankas dans le cadre de la campagne référendaire. Elle a invité les populations à voter oui le 18 juin prochain. Cependant, dans les localités de Longo, Sege, Sokura, Tori et Wenkoro, les populations n'arrivent pas à retirer leurs cartes pour des raisons d'insécurité. Par contre, à Ansongo, la distribution des cartes d'électeurs se déroule normalement. L'affluence est au rendez-vous selon le président de la commission de distribution.
Pourquoi voter oui? Pourquoi voter non?
Dans une récente déclaration rendue publique, le Parti pour la Renaissance de la République, PARENA, a fait savoir qu'il ne peut voter ce projet de constitution. Les responsables ont ainsi appelé à voter contre le jour du scrutin. Dans le document, le parti rappelle avoir depuis longtemps conseillé les autorités d'abandonner ce projet. Djigiba Keïta, dit PPR, il est le secrétaire général du parti. Il est ici au micro de Mamadou Samasekou.
On disait que le poids du président était exorbitant, il faut diminuer. Mais cette fois-ci, on a codifié tout ce qu'on reprochait au président. Tout ce pouvoir-là qu'on donne à un seul homme, on a trouvé que c'est excessif. Deuxièmement, la manière dont on traite le problème du Nord n'est pas la bonne manière. Et nous avons fait une proposition par rapport à ça. Troisièmement, par rapport aux Maliens de l'extérieur, nous avons dit qu'il ne faut pas les exclure. Il faut permettre que les gens se présentent sous leur nationalité. Et une fois que tu es élu, tu dois renoncer à ta nationalité, mais pas avant. Sur la laïcité, nous avons dit qu'il y a une très bonne définition déjà dans le projet de constitution. On peut se passer du mot laïcité. Pour un mot, on ne va pas mettre le pays à feu à sang. Sous Ibeka, la tentative, il y avait beaucoup de contestations avec Ante Abana, mais cette fois-ci, l'hostilité est très très grande.
Parole à Lège.
L'autorité indépendante de gestion des élections a procédé vendredi dernier au lancement du centre des médias et de l'information électorale à Bamako. Pour les responsables de Lège, ce centre contribuera d'une part à créer un environnement pour les élections apaisées et crédibles au Mali, mais aussi faire la promotion et de la bonne information électorale. Amadou Sango, chargé de communication de Lège et responsable du centre au micro de Ali Cissé.
Le centre des médias de l'information électorale mettra l'accent sur la vulgarisation des textes pertinents qui régissent les élections au niveau du droit positif malien, mais aussi des standards internationaux et des bonnes pratiques électorales. Le centre permettra aussi d'organiser des formations en collaboration avec ses partenaires, des séances de mise à niveau sur le processus électoral au profit des multiples bénéficiaires. Les journalistes et les différents partenaires pourront suivre des débats et même des formations par visioconférence. Le centre sera le point de rencontre de la presse nationale et internationale, des observateurs électoraux, d'analyse politique, etc. Il y sera organisé périodiquement des émissions et des débats sur le processus électoral.
L'hygiène dans le couple crée souvent polémique. L'absence d'hygiène peut provoquer fréquemment des disputes au sein des couples. C'est à cela que le Zoom sur d'aujourd'hui s'intéresse et c'est avec Aïssata Diara.
Plusieurs couples sont confrontés à ces problèmes, mais généralement, le cas le plus souligné est celui de la femme. Dans la société malienne, le manque d'hygiène chez la femme n'est ni toléré par son conjoint, ni par son entourage. Les femmes qui sont dans cette situation sont toujours écartées à cause de l'odeur qu'elles traînent avec elles. Toutefois, il faut noter que le manque d'hygiène ne concerne pas uniquement les femmes, mais aussi les hommes. Ils sont nombreux, ceux qui ne se lavent pas, ou du moins avec du savon. La raison avancée par ces derniers est se laver avec du savon fréquemment détruit les protections de l'homme. Savoir si les mauvaises haleines contrarient leur épouse ne les préoccupe point. Il est important de rappeler que la propreté et la bonne odeur plaisent aux hommes comme aux femmes. Alors, soyons propres pour le bonheur des uns et des autres.
De l'information sportive dans ce journal, la cinquième journée des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Le Mali affronte le 18 juin prochain le Congo à Brazzaville. En prélude à ce match, le sélectionneur Eric Sékou Chèle a communiqué aujourd'hui la liste des 28 joueurs convoqués pour affronter le Congo. C'était à la faveur d'une conférence de presse tenue au siège de la Fédération malienne de football. Dans cette liste, nous notons la sélection pour la première fois de Fousséni Tony Diabaté avec les Aigles, alors que Nene Dorgeles et Kamori Doumbia des U23 ont aussi été appelés par Eric Sekouchel. Et avant de clôturer ce journal, nous vous rappelons que dans quelques instants, vous pourriez suivre la suite du grand dialogue, le débat public sur le référendum du 18 juin prochain. Faut-il voter oui ou non? Ça sera avec Sekou Gadjogo et ses invités. Toutes ces informations et ces éditions sont disponibles sur Play Store quand vous téléchargez l'application Studio Tamani. Restez toujours à l'écoute dans un instant, le magazine Malikoura.
Le scrutin référendaire du 18 juin 2023 est un moment unique pour exprimer votre pleine citoyenneté.
Ne restez pas chez vous et laissez les autres décider à votre place. Sortez massivement et rendez-vous dans les centres de vote pour exprimer votre choix.
Déposez dans l'urne le bulletin blanc si vous votez oui, le bulletin rouge si vous votez non.
En plus de la carte d'électeur, vous devez avoir l'un des documents suivants comme pièce justificative pour pouvoir voter.
Carte nationale d'identité, passeport, carte NINA, carte consulaire, permis de conduire, livret militaire, livret de pension civile ou militaire.
Studio Tamani et ses partenaires
accompagnent le scrutin référendaire du 18 juin 2023.
Le projet de la nouvelle constitution prévoit la création d'un Sénat comme deuxième chambre du Parlement. Cette innovation est une recommandation des Assises nationales de la Refondation. Elle vise à renforcer le pouvoir législatif selon les rédacteurs de ce projet de constitution. Mais les acteurs politiques et la société civile sont divisés sur la pertinence et l'opportunité de cette seconde chambre. Ce numéro du magazine Malikoura aborde entre autres le rôle et le fonctionnement du Sénat ainsi que sa composition, Lale Tangara.
Pour la première fois, le Mali aura un Sénat si le projet de la nouvelle constitution est voté au référendum. Membre de la société civile de Ségou, Tidiane Daou pense qu'il faut d'abord informer et sensibiliser la population aussi bien sur le rôle que sur le fonctionnement du Sénat.
Est-ce que les Maliens connaissent même le mot Sénat, le sens du mot Sénat? Qu'est-ce qui se passe dans le Sénat? C'est ça la grande question. Il faut qu'on explique en fond et en large d'abord à la population qu'est-ce que le Sénat, quel est le rôle du sénateur dans notre République. Bon, moi je pense que ce n'est pas une bonne chose parce que ça ne fait que dépenser le budget du contribuable.
Des dépenses de plus dans le budget. C'est ce que pense également Ibrahim Adamele, conseiller communal à Kita. Pour cette élu locale, la création de cette seconde chambre peut attendre.
Le Mali est un pays très pauvre. Voir la création d'une structure comme le Sénat, moi je juge que c'est trop tôt. On devrait attendre parce qu'en réalité, nos institutions sont budgétivores. Bon, en ajoutant le Sénat aux différentes institutions, ça ne fait qu'augmenter les dépenses publiques.
La création du Sénat est une des recommandations des Assises nationales de la Refondation. Des recommandations exécutoires, rappelle Abdoul Samadou Nias, secrétaire administratif du parti ADEMA PAJ de CAI.
La plupart des recommandations de ces Assises nationales ont proposé de créer une deuxième chambre parlementaire. C'était une des recommandations des Assises nationales. À mon avis, c'est pour appliquer les recommandations des Assises nationales parce qu'on dit que les recommandations doivent être obligatoires. Donc ça veut dire que l'État a pris ses engagements.
En plus d'être une recommandation des Assises nationales, le Sénat va stabiliser les institutions politiques, affirme Dr Abdoul Sogodogo, enseignant à la faculté des sciences politiques et administratives. Le politiste ajoute qu'il permettra l'entrée au Parlement de personnes et d'organisations assez représentatives de la société.
La création de cette seconde chambre a l'avantage de contribuer à la stabilité des institutions politiques parce que ça renforce un peu le rôle du parlementaire. Alors, ça permet qu'on ait désormais au sein du Parlement d'autres personnes qui ne passent pas par voie d'élection mais qui sont assez représentatifs d'un pan de la société. Je fais là allusion aux autorités traditionnelles, coutumières et religieuses, mais aussi certains syndicats qui vont se voir représentés.
Le juriste Ibrahim Khalil Touré insiste sur le niveau d'éducation des membres qui vont composer ce Sénat. Selon lui, ceux-ci doivent avoir une certaine capacité intellectuelle.
Voter des lois n'est pas chose aisée. Et quand on a des élus qui ne maîtrisent pas les sujets sur lesquels ils doivent statuer, ça peut amener des problèmes. Le Sénat va être majoritairement composé de gens qui, de mon point de vue, seront faiblement instruits. Donc, il faut faire extrêmement attention à ne pas bonder ce Sénat-là de personnes qui ne seront pas en mesure vraiment de faire le travail qu'il faut.
Comment fonctionnera le Sénat? Qui le composeront? Comment seront-ils élus? Quels seront leurs rôles et prérogatives? Voilà des questions qui sont sans réponse à ce stade. Selon Dr Youssouf Zed Koulibaly, président de la Commission administration territoriale et décentralisation du CNT, un règlement intérieur déterminera toutes ces questions une fois que le projet de nouvelle constitution est voté.